Salut tout le monde, angle mort du 25 juin, nouvelle formule. Ah, vous êtes très excités. C'est à la suggestion de mon ami Red Fred, avec qui je suis allé luncher lundi. Puis il m'a dit, moi, j'aimerais ça si tu... Parce qu'il dit, toi, 7 jours sur 7, tu lis plein de journaux. Puis ce que moi, je fais pas, mais il dit, j'aimerais ça que tu me donnes un peu ce que tu retiens, mettons, l'affaire que tu retiens des journaux que tu as lus. Ça fait que je pars avec ça aujourd'hui. J'essaye ça, je trouve ça super intéressant. Alors, je commence avec une nouvelle dans la revue Slate que vous connaissez peut-être pas, mais que je vous conseille d'aller voir, slate.fr. C'est une espèce de magazine Internet centre-gauche, voire très très gauche, puis qui est ultra original, qui est écrit par du monde qui ont beaucoup de talent, puis qui viennent, si tu veux, nourrir cette revue-là qui est exclusivement sur Internet. Moi, quand j'étais avec Duhem, là, presque chaque jour, j'avais un article qui venait de Slate sur lequel on partait une discussion, tu sais. Mais il faut être ouvert vers la gauche, là, tu sais. C'est vraiment pas... C'est pas Valeurs actuelles, puis on n'est pas... C'est pas à droite, pas en tout. Mais c'est dans le centre aussi. Puis c'est souvent très... c'est très pesé sur des faits, mais c'est original. Un genre de Vice. Tu sais, pour ceux qui connaissent Vice, du reportage un peu de guérilla sur le terrain, etc., mais ils ont tendance à avoir une vision qui est plus à gauche. C'est français. Puis c'est super intéressant. Puis entre autres, l'article, c'est le segway, c'est terminé. Puis ça, ben, je vais vous en parler parce que j'en parle dans mon avant-dernier livre qui s'appelle « L'important, c'est ce que les autres pensent ». Puis je parlais de c'est quoi une bonne idée. Puis que pour déterminer si une idée était une bonne idée, il faut qu'elle passe à travers un filtre où il y a quatre options. Puis il y a juste une des quatre options qui est bonne. C'est-à-dire que tu as la bonne idée bien exécutée. Ça, c'est l'idée qui marche. Ça fait que, mettons, Tinder. Tinder, c'est une bonne idée, c'est-à-dire une application pour rencontrer, puis est bien exécutée. C'est simple, tu swipes à droite, tu swipes à gauche, etc. Tinder, bonne idée, bien exécutée. Mais après ça, tu as tous les autres combos qui ne marchent pas, mais qu'il faut avoir du jugement avant des analyses juste en disant « Ah, c'était une mauvaise idée ». Exemple, le Segway. Le Segway, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme un genre de trottinette qui s'équilibre d'elle-même, c'est que là, tu te promènes avec ça, tu sais, puis il y a des années de ça, l'inventeur avait dit « ça va révolutionner les transports, tout le monde va se promener en Segway, parce que c'est bien fait, tout, puis c'est, tu payes sur un bouton, ça avance, comme une trottinette, mais avec deux roues sur chaque côté, si tu veux, là, tu sais, c'est que t'as une plateforme, t'es bien assis là-dessus, puis t'as un grand manche, puis tu contrôles, puis là, t'avances, tu recules. » C'est que donc, c'est vraiment bien fait. Mais il n'y a eu aucune demande réelle, parce que dans la vraie vie, qui voulait aller un peu plus vite quand il marche sur le trottoir? Personne. C'est que ça finit par être juste des gardiens de sécurité dans les centres d'achat qui prenaient ça comme un cart de golf, tu sais. Sauf que c'est malade de la façon que c'est efficace. C'est ultra efficace, un Segway. C'est très bien fait. Donc, contrairement à la première idée qui était Tinder, une bonne idée, ça veut dire qu'il y a un vrai marché, il y a du monde qui en veut, puis c'est bien fait, bonne idée, bien exécutée. Là, t'as une mauvaise idée, mais très bien exécutée. Puis après ça, t'as des excellentes idées, mais mal exécutées. Alors ça, on peut voir ça à la télé souvent, par exemple, où tu vas faire, hey, il y a un quiz, ou genre, je sais pas moi, ils ont ramené Coup de foudre. À un moment donné, ils avaient ramené Coup de foudre à Musique Plus, etc., mais tout cheapette, puis blablabla. Pas celui avec Mathieu Baron, là, mais plusieurs années avant. Puis là, ben, tu sais, c'était comme, ah, Coup de foudre, c'est plus à la mode, blablabla. Ben, pas nécessairement. Parce que vous avez ramené une idée qui est probablement bonne, mais ça a été exécuté tout croche. Puis après ça, ben, t'as le lot immense de tout ce qu'on appelle une mauvaise idée, puis qu'en plus, est mal exécutée. Ça fait que je trouve ça très agréable, agréable, c'est pas le bon terme, mais je trouve ça intéressant de voir que là, tout à coup, on annonce que le Segway est terminé. Ça a duré, c'est ma foi, peut-être une vingtaine d'années, cette affaire-là. Ça fait longtemps que ça... Puis, il n'y a plus de demande, il n'y a plus rien, il n'y a plus, tu sais, puis il y a toutes sortes de petites trottinettes là, qui ont clenché ça parce que ça coûte cher. Ça fait que ça, c'est ce que je retiens dans la revue Slate que je lis à travers Twitter. Je ne suis pas abonné à Slate comme tel, mais à leur Twitter, puis tu sais, c'est bien intéressant. Après ça, dans Le Monde, on lit « Et si les marques de presse étaient plus puissantes qu'il n'y paraît? » Et puis, c'est une compagnie qui s'appelle One Next, qui fait une étude maintenant qui va voir quel est l'impact réel de la presse écrite. Parce que la presse écrite est lue ici comme partout, est lue maintenant beaucoup sur Internet, beaucoup de façon gratuite. Prenez la presse, par exemple. En partie ou au complet, selon l'abonnement. Moi, je suis abonné au journal Le Monde, mais je ne le lis pas tous les jours dans sa version PDF complète. Je le lis parfois. Ça fait qu'effectivement, il y a un impact au niveau de la marque qui est Le Monde, La Presse, Libération, Journal de Montréal, qui est mal mesuré en date. d'aujourd'hui, ou est-ce que tu peux être au courant de tout ça, là, réparti? Sans compter que c'est repris aussi par des chroniqueurs. Moi, je le disais, là, je nommais ces journaux-là. Ah, ben, j'ai lu dans Le Monde, j'ai lu dans Journal de Québec aujourd'hui, j'ai lu dans Le Soleil, j'ai lu. Ça fait qu'eux autres, ils veulent recenser ça pour dire aux annonceurs, il n'y a pas juste la cote d'écoute comme telle, mais il y a aussi jusqu'à quel point tu rentres plus creux quand ça vient d'une marque connue. Puis ça aussi, c'est vrai. Tu sais, à l'époque des fake news puis de tout et n'importe quoi, si tu annonces sur un channel de complotistes, à ma connaissance, il n'y a pas d'annonce là, mais admettons que moi, mes clients Groupe Saillant se mettent à faire de la pub sur un canal YouTube là, de Zoom Zoom qui parle de qu'il y a des extraterrestres ou autres, ben il y a beau avoir, mettons, 100 000 personnes qui écoutent, c'est qui ces 100 000-là? Tu veux-tu vraiment que ce soit tes clients? Ils ont-tu de l'argent, de un? Tu sais, t'as vraiment... Ça fait que c'est très intéressant de dire, là, on va faire une étude pesée à savoir qu'est-ce que la marque vaut et non pas seulement c'est quoi les codes d'écoute. Parce qu'on l'a vu avec le COVID. On l'a vu avec le COVID. J'en ai parlé hier encore. Nous autres, on était là comme des innocents, puis je me mets dans l'eau. Hey, aujourd'hui, il y a eu 50 morts, 60 morts, puis on les fait pas ventiler. C'est qu'on finit par penser, je l'ai, je meurs, je l'ai, je meurs. Puis tout à coup, tu regardes, tu fais, non. Si t'es en bas de 70 ans, tu l'as, t'es malade, mais les chances que t'en meurs, c'est ultra faible. Ça fait que les codes d'écoute, puis le lectorat d'un journal, c'est exactement la même affaire. Donc, en un mot, la marque fait une différence. Si c'est pas l'Arcan qui te dit quelque chose, c'est pas la même affaire que si moi, angle mort, allô, comment ça va? C'est ça n'a pas le même poids. Ça fait qu'eux autres, ils veulent le mesurer, ça. Donc, je trouve ça très intéressant. Donc, ça, c'était dans Le Monde. Après ça, dans le New York Times, ben c'est là qu'on apprend aussi qu'en Floride, c'est le bordel. Au Texas, c'est le bordel à cause du COVID. Là, c'est des États, évidemment, où c'est que là-bas, les gens ont fait comme DeSantis, qui est le gouverneur de... C'est des États républicains, en passant, là, tu sais. C'est toutes des échos du côté de Donald Trump qui disaient « Ouais, on réouvre, let's go, on réouvre. » Puis là, ben la Floride est en train de refermer ses bars parce qu'ils ont réouvert trop vite. Ça fait qu'en un mot, encore là, je vous le dis souvent, c'est trop facile après coup de dire « Faites comme lui, faites comme ci, faites comme ça. » Parce que tu te rends compte que ça évolue, puis que c'est nouveau, puis que tu gères ça comme tu veux. Mais ce qui est clair, c'est que quand ton propre président, comme Bolsonaro au Brésil, c'est pas un hasard pour lequel le Brésil et les États-Unis, c'est même au prorata, c'est vraiment, ça n'arrache, puis il y en a en tabarouette, et des morts et des malades. C'est quand ta figure de proue fait « Ah, c'est pas grave », imagine l'influence que ça a. Fait que je préfère un logo qui a peut-être exagéré, comme l'écrasante majorité des pays se sont comportés de la sorte. Puis ceux d'ailleurs qui ont presque pas de morts, la Corée du Sud ou le Costa Rica, entre autres. Hein. Le Costa Rica, là, jusqu'à il y a pas longtemps, il y avait 6 morts. Mais eux autres, ça a été pareil. Quand ça a commencé, bang! On ferme ça de même, bing, bing, bing. C'est qu'ils n'ont pas eu à fermer longtemps. Ils ont contenu ça, let's go. Ça fait que, tu sais, il y avait des méthodes qui pouvaient être plus efficaces, là, manifestement. Et encore, c'est peut-être à des places où ce que, tu sais, j'en ai déjà parlé de tout ça, c'est culturel aussi, obéir au pouvoir public ou être tout le temps en train de lancer des roches. Ben, c'est les pays latins qui sont les plus... L'Espagne, rappelez-vous, c'était le bordel. Il y a beaucoup de pays latins dont le sang est plus bouillant, les conflits sont plus... T'sais, comme la France, entre autres. C'est une autre place où ça a été difficile. Fait que je retiens ça du New York Times, entre autres, c'est de voir que Calvaz, quand le chef qui passe à TV comme un malade dit « Ah, ben écoutez, c'est pas trop grave », ben là, t'as toute une gang qui font « Ah, oh, on va réouvrir, faut pas que l'économie arrête ». C'est la prémisse que tout le monde souhaiterait, là, que tout ce qu'on a vécu n'arrive pas. Puis là, tout à coup, ça repart. Ça me fait penser à un adage en informatique qui dit « Si tu prends pas le temps de bien le faire la première fois », où tu vas prendre le temps pour recommencer. Je trouve ça génial. Ça fait que tous ceux qui font comme « Ah, c'est pas grave, gabotche ça un peu, telle affaire », ben, c'est parce qu'il arrive quoi après, tu sais. C'est comme des fois, je vais au Costco, puis je me dis, peu importe où je magasine à différentes places, puis je me dis « Ah, je vais en prendre un pack, même si tu peux le congeler. Pourquoi je n'en prends pas le plus possible? Je vais juste pas retourner, je vais en acheter encore. » Mais là, on se dit « Ah, je voudrais pas une épicerie de 500$. » Ben, tu vas dépenser 500$. T'sais, là, 500, c'est élevé, là, mais comprenez-vous, ça fait qu'il y a un peu de ça, je trouve, dans la gestion du coronavirus, là, comme vous voulez. C'est que manifestement, ceux qui se sont dit « c'est pas grave, on reste ouvert », mais qui n'ont pas confiné les gens qui étaient le plus à problème, c'est ce que la Suède a fait, ben ça fait comme juste « free for all, là, c'est pas grave, c'est juste une grippe ». Puis là, ben, ça leur retourne d'en face. Alors, la gang à Donald Trump de ce temps-là, ça va pas super bien. Et là, j'ai vu une autre affaire. J'ai vu une pub en lisant un article dans le Journal de Montréal pour un de leurs différents magazines. Et c'est clin d'œil qui parlait des 31 couples qui ont une grande différence d'âge. Puis je le regardais au complet, c'est une petite vidéo, tu sais. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est, on appelle ça putaclic, là. Fait que tu cliques, tu regardes une vidéo de une vidéo, j'ai toujours de la misère avec ça, de 3 minutes et demie, genre. Et puis là, tu voyais, écoute, il y en a qui ont 34 ans de différence. Calista Flockhart avec Harrison Ford, ils ont 34 ans de différence. 34 ans. Tu sais, tu fais comme 15, 20. 20, c'est quand même pas pire élevé, là. Mais je m'en fous, là. Pas élevé en voulant dire, ah mon Dieu, c'est terrible. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu le vois dans la photo. Si tu peux pas t'empêcher de trouver que c'est un petit vieux avec une femme qui est encore relativement jeune ou autre. T'sais, tu peux pas, à moins d'être bien hypocrite puis faire, ah, l'âge, ça n'a pas d'importance. Je veux bien croire, mais là, il est rendu à 75 ans. Il a l'air de 75 ans, là. C'est comme... je trouve ça drôle quand la différence, c'est 20 puis 45, mettons. T'sais. La fille a 20. Marie, qu'à 45, qu'est-ce qui m'intéresserait chez une fille de 20? Ça, c'est une autre question, mais bref. À part physiquement, je parle. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est plus 20-45. C'est 30-55. Puis c'est 40-65. Puis c'est 50-75. Céline Dion, il est parti René, là. Ça fait qu'à un moment donné... La pire affaire, j'ai toujours trouvé, moi, c'est de se projeter trop loin dans un monde où tout peut arrêter du jour au lendemain, incluant une relation. Donc, tu sais, j'ai jamais été du genre, « Ah, marie-toi aujourd'hui en pensant que dans 40 ans, vous allez... » Non, mais non, arrête, il y a eu une époque de ça, de grâce. Soyez réaliste, c'est plus ça. Là. Puis pour ceux qui c'est ça, tant mieux. Mais te projeter indûment, ça n'a juste pas rapport. Dans tout, maintenant, tant qu'à moi, là. Mais ça, en tout cas, ça m'a frappé. Tu sais, j'ai trouvé que... Quand t'es rendu à 25-30 ans de différence, je trouve qu'il y a un bout. Puis moi, perso, je me souviens, je vous fais une petite anecdote personnelle. Quand j'étais en secondaire 5, il y a une fille qui s'appelait Eve Daniel Veilleux, elle me faisait vraiment triper. Puis elle sortait avec un gars qui était à l'université, il faisait son bac en chimie. Je me souviens de ça. Puis je me souviens que moi, à 17 ans, je me disais, veux-tu bien me dire... Puis je tripais sa fille, là. Puis je me disais, veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'un gars à l'université trouve à une fille de secondaire 5? Parce que quand t'as 17 ans, un gars de 23, c'est vieux à mort, tu sais. Pas vieux en soi, mais la différence, c'est comme, hein. Tu sais très bien que quand t'es en secondaire 2, les secondaires 1, c'est des enfants, puis le secondaire 3, c'est des grands, puis ils te jettent des roches dans la cour d'école, puis ils sont baveux, puis tu sais. Ça fait qu'il y a un âge où la différence d'âge est instantanée, puis il y a un âge où, à un moment donné, ça s'efface. Mais il reste que moi, j'ai toujours trouvé que il y a une super... Il arrive à un âge qui est à peu près 25 ans, si vous voulez mon avis, où à quelque part, t'es un vrai adulte, là, à quelque part, puis encore. C'est comme, c'est à 30 dans la vraie vie que ça part, là, tu sais. Surtout aujourd'hui, là, avec Instagram, puis tout, là. Les filles restent comme regardez mes photos, tu sais, puis les gars, je le sais, moi j'ai été dans les bars jusqu'à l'âge de genre fin trentaine, là, début 40. Ça fait que tu sais, l'adolescence se poursuit, mettons, on va appeler ça de même, là. Mais il reste que quand t'arrives à, mettons, 40 quelques, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant chez quelqu'un, gars ou fille de 22, tu sais? Puis en plus, ils ont de l'air. Ça fait longtemps pour moi qu'une fille début vingtaine a de l'air de ma nièce, tu sais, qui a effectivement 22. Ça fait que là, tu fais comme malaise, je bois. C'est pas si attirant que ça, c'est drôle, hein? En tout cas, bref. Ça fait que ça, je trouvais ça rigolo de voir ce truc-là. Et après ça, j'ai lu dans le Journal de Montréal l'opinion de Gilles Proulx. Puis il termine avec quelque chose d'intéressant qui me fait surfer sur autre chose. Il termine son article en parlant de la Saint-Jean, qui dit que ça, puis la fête du Canada, il dit que c'est des fêtes insignifiantes, qui ont tout perdu. Il dit « Quelle ironie d'avoir subsisté collectivement contre vents et marées pendant un quart de millénaire, depuis la conquête anglaise, seulement pour finir assommé par les leçons de morale d'artistes qui ne se souviennent de rien. » Puis ça, c'est quand même fantastique, de voir le poids qu'ont les artistes au niveau du discours qui est relayé par les médias. Parce que si Pierre Lapointe s'exprimait sur sa page Facebook, ça serait totalement anonyme. Mais ah ouais, il vient chanter, puis ah ouais, il va chercher son trophée, puis il dit ça, puis la patente, puis l'autre, puis là, à Radio Cannes, il parle telle affaire. Puis loin de moi d'interdire quoi que ce soit, puis loin de moi de faire une équation épouvantable pour laquelle moi-même on a fait cette erreur-là, de dire « Ah, si c'est un artiste, il n'y a rien à dire. » C'est faux, complètement faux. Ça vient qu'une sensibilité que je respecte énormément. C'est juste que c'est Claude Legault lui-même. Là, je ne vous cite pas du Marc Boilard, c'est Claude Legault en entrevue dans le temps qui avait dit la chose suivante. Il dit, depuis que je passe à TV, quand Claude là, il y en a qui pensent que comme tout le temps, il est né instantanément. Ça a pris 10-15 ans que ce gars-là faisait du théâtre, de l'impro, toutes sortes de patentes qu'il n'arrachait. Puis là, un jour, la TV a commencé à le ramasser avec Minuit le soir, puis toutes sortes de trucs. Puis il est devenu Claude Legault et bien mérité. Puis il avait dit à une entrevue, il avait dit là, il dit, je sais pas c'était à quoi la question, puis je me rappelle pas des mots précis, mais ça revenait à ça. C'est qu'il disait, c'est pas parce que maintenant je fais de la TV puis que je suis plus connu, que je suis plus intelligent, puis que j'ai plus d'affaires à raconter si vous me posez des questions en dehors de mon métier. Il dit, je pense les mêmes affaires qu'avant, c'est que là-dedans, il doit y avoir des affaires qui ont bien de l'allure, puis il y a des affaires qui en ont pas. Mais je suis pas, à passer à TV, je suis pas devenu tout à coup genre, ah oui, là, je me suis vraiment soudainement épanché sur la question pendant la nuit. Et puis voilà, maintenant, tu sais, c'est ça. Ça fait qu'il y a un lien incroyable qu'on fait entre la notoriété puis la portée. Puis c'est pour ça que moi, je dis tout le temps, celui qui passe le plus à TV gagne l'élection. J'arrondis les coins ronds, c'est un peu vulgaire, c'est pas techniquement tout vrai, mais beaucoup. Ça fait que Proust qui dit, Gilles Proust, c'est quand même pas inintéressant quand il fait « On s'est battu, la révolution tranquille, comprends-tu, on a sorti de l'église du gouvernement, ah ouais, let's go. » Puis là, tout à coup, c'est comme là, ah ouais, vive les homosexuels, les trans sont fantastiques, etc., abat l'antiracisme. C'est tout correct, là. Mais l'impact que ça peut avoir, que moi je remets en question, d'ailleurs, j'en ai parlé cette semaine, l'impact que ça a réellement chez monsieur, madame, tout le monde, chez la population comme telle, de un, j'en doute. Donc, en un mot, il faut faire la différence entre le bruit et le fond. Mais il reste que lui, son observation, je la trouvais digne de mention pour vous autres aujourd'hui, c'est que tu fais comme le Québécois, le Canadien français est sorti vraiment du joug l'anglais qui était réel hein, à l'époque. Puis là, maintenant, c'est comme il y a une déferlante qui vient d'artistes qui connaissent quoi dans la vraie vie, puis telle affaire. Alors, tout ça est éminemment discutable. Si j'avais quelqu'un devant moi, je suis sûr que ça ferait une bonne conversation ou un bon débat, peu importe, parce que je n'ai pas tant de position, mais je trouve juste ça drôle. Fait que, voyez-vous, ça a retenu mon attention. Et pour terminer, article dans la presse qui dit combien d'auditeurs écoutent Cube Radio. Et ça m'intéresse à mort. Vous savez, moi, je suis un gros fan de médias. J'en fais, j'en consomme, c'est faux. Je consomme absolument rien. J'écoute pas la radio, j'écoute pas la TV. J'écoute juste quelques émissions de France. Fait que c'est drôle, je suis extrêmement intéressé par la business des médias, mais je suis pas un consommateur. Fouille-moi pourquoi, mais c'est de même. Et puis Cube Radio, évidemment, que je trouve qui est un très beau projet, mais hyper audacieux, puis qui a été amené de façon plutôt ordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont répliqué les réflexes de la radio parlée en général. Il n'y a pas une programmation à Cube avec Dutrisac, avec Jonathan Trudeau, avec Geneviève Peterson, à la rigueur, je ne l'ai pas écouté, mais j'aime bien son profil. Je pense qu'à quelque part, il y a de quoi de pétillant chez elle qui peut être intéressant. Pour le reste, je ne dis pas que c'est zéro. Là, Dutrisac, très compétent, c'est pas mon point. Je fais juste dire que j'ai pas vu d'audace quand Cube Radio est arrivé. C'est pas vrai qu'ils se sont dit « la tendance est au podcast, puis on va faire une espèce d'amalgame sur Internet entre ce que les podcasts ont, c'est-à-dire des sujets très bien campés. » C'est quand tu regardes la programmation de Cube, c'est pas une programmation basée sur des sujets, mais sur des gens. Donc, c'est exactement comme le 98.5. Or, les podcasts, c'est basé sur un angle. C'est basé sur un... Tu sais, je veux dire, tu vas écouter un podcast qui parle de Star Wars, un autre qui dit comment faire des tartes aux pommes. Tu vas écouter... Moi, vois-tu, je suis pas dans cette ligne-là particulièrement avec Angle Mort. Ou là, vous écoutez du Marc Boilard. Si vous écoutez Angle Mort, c'est pas parce que « Ah, Marc parle de tel sujet », vous savez même pas de quoi je vais parler. C'est parce que manifestement, il y a quelque chose qui vous rejoint dans moi, comment je traite le sujet du jour. Par contre, si vous faites mon Patreon, c'est clair parce qu'il y a un sujet qui s'appelle avoir des conseils en communication interpersonnelle. D'ailleurs, aujourd'hui, je parle de la troisième vitesse. Là, quand on est rendu, j'ai expliqué la deuxième vitesse la semaine passée. Donc, les points communs qu'on fait quand on jase avec quelqu'un de nouveau. Puis là, la troisième vitesse, c'est qu'il faut rentrer des éléments de contrariété. Donc, si vous voulez vous abonner, patreon.com/Marc Boilard. Et puis, c'est ça, ça fait que je trouve que Cube, ils ont fait une radio conventionnelle, alors qu'ils auraient dû faire, je pense, une radio très podcast, comme d'ailleurs les podcasts qu'ils offrent, qui ont des thématiques sur... Il y en a un qui s'appelle Méchant Raisin, avec Turbide, qui parle de vin, etc. Ça fait que je suis au courant de ce qu'ils font sans être un client. Puis là, ben ils donnaient des chiffres, tu sais, puis ils disaient l'important, c'est pas autant de savoir, parce que eux autres, ils prétendent que sur une période X, il y a eu 1,3 million de personnes qui sont allées, mais ils sont peut-être allées une fois 4 minutes. Fait que là, tu fais, ça vaut quoi? Pour un annonceur, le temps que tu passes à l'antenne est beaucoup plus payant. Preuve en est que dans ce département-là, les radios parlées comme Radio Can ou 98.5 sont très fortes. Même Rythme FM est très fort, selon les chiffres dans l'article, en heure d'écoute. Ça fait que là, après ça, tu as d'autres paramètres, c'est-à-dire heure d'écoute de qui? C'est comme, il y a beaucoup de monde qui écoutait le Doc Mailloux de 70 ans et plus. Ouais, puis on leur vend quoi, eux autres? Ça fait que dans une radio commerciale, si t'es pas dans le 25-54, ou jusqu'à 64, là, Cogeco essaie de pousser un peu un nouveau segment qui est 35-64, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est effectivement un créneau commercial payant. Mais là, au-delà de ça, ben ça se peut que tu sois numéro un, t'écrases tout le monde, mais c'est parce qu'il faut que t'annonces. Si t'annonces à qui? De 65-70 ou plus, qui sont pour la plupart retraités, puis qui sont pas au Canadian Tire tous les jours en train de dépenser, puis comme une petite famille de deux enfants, on se comprend, tu sais. Ça fait que c'est bien intéressant, ça, le projet de Cube. Moi, je trouve que c'est de quoi qui est très audacieux. Est-ce qu'ils ont commencé trop tôt? Est-ce que c'est dans un an, deux ans ou maintenant? Je sais pas. Je trouve juste que je mettrais en onde des sujets plus campés ou des trucs qui seraient plus... Puis d'ailleurs, je sais pas pourquoi à Cube, il y a pas ce que moi je faisais au 93, c'est-à-dire ma dernière heure au retour l'été passé, puis je faisais dans le trafic, ça s'appelait dans le trafic, c'était une longue entrevue avec un politicien, un humoriste, etc., puis ça pognait du feu du diable, puis c'était banal dans le temps, dans le fond. C'était juste une longue entrevue, tu sais, mais on va dire comme Guy Laforce, puis c'est le propre du podcast, sa réflexion est écœurante, puis est banale, mais dans le fond, je le cite parce que ça vient de lui. Il dit, as-tu déjà entendu une fois dans ta vie quelqu'un dire « Hey, ça, c'est super intéressant, mais c'est trop long. » Ça se peut juste pas. Fait que, tu sais, une longue entrevue, par définition, ça devrait toujours être le cas. Mais encore là, ça prend l'animateur en question, puis ça prend un invité qui est dans le sens du monde. Je les nommerai pas, mais j'ai eu deux ou trois invités sur une vingtaine l'été passé qui avaient été plates. Alors, si l'invité est plate, c'est aussi de la faute de l'animateur. Donc, il y a quelque chose chez moi. Je ne suis pas un donneur universel. Je peux pas tout le temps rendre tout le monde intéressant. Mais un autre aurait pu, je suis sûr. Un autre aurait pu connecter avec X ou Y, dont je me souviens, que le monde m'avait dit « Ouais, c'était moyen. » Puis j'ai fait « Ouais, c'était moyen. » Tu sais, à un moment donné, moi, ma prémisse, c'est quand tu fais vraiment parler quelqu'un puis tu l'écoutes réellement, là, pour vrai, habituellement, les gens s'en vont dans les zones où ils sont confortables puis ils deviennent intéressants par définition. Mais non. Il y a du monde qu'il faut que tu y sortes peut-être de ce qui... En tout cas, bref. Ça fait que ça n'existe pas nulle part. Bizarrement, les podcasts, Mike Ward l'a prouvé dans un contexte très déglingué, mais de passer une heure et demie, deux heures avec quelqu'un à juste jaser, ça marche. Ça fait que j'ai besoin de vos feedbacks ce matin. Comment vous avez trouvé ça? Moi, j'aime ça faire ça. J'aime ça, j'aime vraiment ça. Prendre cinq trucs comme ça, puis partir là-dessus, là. J'ai pas besoin d'avoir un autre sujet principal. C'était ça. Si vous aimez ça, dites-le-moi. Si vous aimez mieux un sujet, dites-le-moi aussi. Je vais prendre vos feedbacks. Puis demain, je vais vous donner un peu le résultat de ce que vous m'aurez raconté. Donc aujourd'hui, j'enregistre mon Patreon, pour ceux qui s'intéressent, qui sont pas encore abonnés. Et aussi, j'ai lancé hier mon troisième podcast, vous l'avez déjà dit, j'en veux plusieurs, qui s'appelle « Discussion avec un expert ». Allez sur LinkedIn. Vous avez tout ça avec marcboillard.com. Là. Il y a un bouton en haut marqué « Toutes mes activités web » en un seul clic. Là. Vous allez tout voir par marcboillard.com, tout ce que je vous parle là. Mais c'est sur LinkedIn, ça dure 1h10. Puis c'est un expert qui s'appelle David Quentin, que j'ai interviewé. Puis il nous explique c'est quoi LinkedIn, c'est comment ça marche, c'est des affaires que j'aurais jamais su. Puis pourtant, il torche ce réseau-là. J'ai vraiment de résultats là-dessus. C'est intéressant, là, ça bouge. Mais c'est complètement autre chose que Facebook. Si on ne te l'explique pas, tu ne le sais pas. Fait que l'entrevue, c'est bien intéressant. Donc, je l'ai mis sur ma page YouTube, là, mais allez sur LinkedIn, Marc Boillard, puis je suis convaincu que vous allez trouver ça intéressant si vous aimez les réseaux sociaux. David explique ça clair comme l'eau de roche. Merci tout le monde, à demain. Ouais.